Débactu.
Débactu.
Débactu, le point de vue des lycéens concernés.
Bonjour à tous, bienvenue sur le débat sur le tout électrique d'ici à 2035. Je me présente, je m'appelle Martin et je suis accompagné de Raphaël et de William. Alors pour commencer, qu'est-ce que le tout électrique d'ici à 2035 ? Je vais vous resituer le contexte. Une loi européenne sur le tout électrique d'ici à 2035 est en cours de débat, mais l'Allemagne s'y oppose. Cette loi a pour but qu'à partir de 2035, aucun véhicule thermique ni hybride ne soit vendu en Europe. Et par conséquent, il n'y aura plus que des véhicules électriques ou à hydrogène sur le marché. Selon une étude du journal Le Monde, au 1er janvier 2021, la part des véhicules neufs vendus en France représente seulement 12% des véhicules neufs électriques, alors que seulement 1% des voitures sont électriques sur le parc automobile français, contre 57% de diesel et environ 40% de véhicules à essence. Notre première question que je vais poser à nos deux acolytes, selon vous, les voitures électriques sont-elles plus sûres que les voitures thermiques ?
Donc moi, je répondrai oui à cette question, puisque tout d'abord, il y a bien sûr moins d'entretien pour une voiture thermique que pour une voiture électrique. Par exemple, selon biv.co, on a moins besoin d'entretenir sa voiture, notamment le moteur qui a une plus longue longévité. Donc les voitures électriques sont réputées pour cela. Donc ça peut durer plus de 10 ans. C'est vraiment un avantage par rapport aux voitures thermiques.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que selon une étude d'une grande assurance, c'était le Crédit Agricole, je crois, ils avaient fait des tests sur des voitures électriques. Et en fait, quand les voitures électriques étaient exposées à des températures négatives, certaines voitures comme les Tesla explosaient, tout simplement, ou des températures supérieures à 40 degrés. Donc ça peut poser des questions, je pense, sur la sûreté, mais c'est que dans des températures extrêmes, donc dans la vie de tous les jours, c'est globalement sûr.
Oui. Pour donner mon avis, donc pour ma part, les voitures électriques sont plus sûr que les voitures thermiques. Il faut savoir que les voitures électriques vont avoir un centre de gravité plus bas que les voitures thermiques, ce qui veut donc dire que sur les routes, il y aura beaucoup moins d'accidents, et ce qui va réduire donc les défaillances mécaniques et les risques d'accidents sur la route.
Je tiens aussi à rajouter, donc toujours grâce au site biv.co, qu'une voiture électrique, c'est seulement constitué d'un moteur électrique, d'une batterie et d'un système de transmission, donc sans boîte de vitesse. On a juste ça plus les éléments électroniques. Et l'entretien est recommandé tous les 30 000 km pour une voiture électrique, contre 15 000 km pour une voiture diesel. Donc ça fait quand même une différence de 15 000 km pour l'entretien des voitures.
Ok, merci Raphaël. On va passer à la seconde question, même sauf si l'un de vous a d'autres choses à dire. Les voitures électriques sont-elles plus économiques à long terme ? Pour ma part, je pense que globalement oui, parce que une batterie se recharge en environ 4 heures, et sauf sur les chargeurs rapides Tesla, mais qui vont être élargis à toutes les voitures électriques. Sauf que sur les superchargeurs, je crois que c'est environ 25 euros. C'est quand même globalement moins, enfin c'est bien inférieur quand même au prix de l'essence, parce que l'essence, par exemple, pour 100 km, c'est environ, une voiture sur l'autoroute, c'est à peu près 6 litres au 100. Sachant que le prix en ce moment, il est quasiment à 2 euros, ça fait 12 euros les 100 km. Et pour une voiture électrique, ça fait 0,18 kWh. Et c'est à peu près 3 euros. Donc on voit que quand même une voiture électrique est nettement plus économique.
Pour reprendre ce que tu as dit, je pense que l'électrique c'est vraiment avantageux, surtout en ce moment. On a vraiment remarqué la hausse de l'essence. Pour certaines familles, ça peut être très handicapant. Exactement. Raphaël, il va même nous démontrer des chiffres sur le fait que l'électrique c'est beaucoup plus avantageux. Et pour avoir une voiture électrique à la maison, on s'en rend compte, malgré le coût de base de la voiture, sur le long terme, c'est vraiment avantageux et c'est vraiment un plus.
Mais par contre, je tenais à dire que sur le marché du neuf, une voiture électrique est quand même bien plus chère qu'une voiture thermique. Donc certes, à partir des 20 000 km, c'est largement rentabilisé, mais ça fait quand même un prix et il faut quand même installer chez soi le chargeur. Pour moi, les voitures électriques, pour l'instant, c'est surtout pour les gens assez aisés. Parce que quand on gagne un SMIC, malheureusement, acheter une voiture électrique, c'est très coûteux. Et je pense que c'est pas encore à la portée de tout le monde.
Alors moi, je suis pas totalement d'accord avec toi, Martin, puisque maintenant, les voitures électriques sont de moins en moins chères. Donc notamment la Dacia Spring, qui est au même prix qu'une voiture thermique, en fait. Et puis même si la personne veut acheter une voiture qui soit plus chère, elle peut emprunter de l'argent, puisque de toute façon, sur la durée, ça sera toujours moins cher qu'une voiture thermique. Donc en plus, du coup, on n'a pas l'essence à payer et on a beaucoup moins d'entretien. Et avec une voiture électrique, il y aura juste à entretenir le lave-glace, les essuie-glaces, les pneumatiques, donc avec les plaquettes ou les disques. Alors que sur une voiture thermique, il faut aussi faire les vidanges, les courroies, la distribution, les bougies. Et selon Biff.co, pour 20 000 km par an, avec un véhicule électrique, ça nous coûte 400 euros d'entretien, alors que c'est 2 000 euros pour une voiture thermique. Donc ça fait quand même un écart de 1 600 euros. Donc c'est vraiment pas négligeable. Plus de ces avantages, il y a des autres solutions qui permettent de rentabiliser cette voiture électrique. Donc par exemple, dans certaines villes, les emplacements de parking pour les voitures thermiques sont gratuits.
Comme à Paris, oui, c'est ça.
Ou alors, c'est beaucoup moins cher que pour les voitures thermiques. Et puis après, évidemment, on a le gouvernement qui donne de l'argent pour pouvoir rembourser une partie de la voiture électrique. Donc tout ça, ça permet de réduire le coût des voitures électriques.
Je suis d'accord. Mais sachant qu'une Dacia Spring, c'est environ 200 km d'autonomie. Et c'est surtout pour des trajets urbains. Mais si on veut faire des longs trajets, il faut tout de suite se mettre 30, 40 000 euros dans une voiture. Et bah ça, malheureusement, c'est pas à la portée de tous. Mais ça va nous permettre de passer au sujet suivant. Pour quel usage acheter une voiture électrique? Donc moi, je pense que l'usage, c'est surtout l'usage urbain. Parce qu'en fait, là maintenant, les voitures électriques, c'est environ 3 à 500 km d'autonomie. Mais 3 à 500, c'est sur le papier. Parce que en pratique, quand on met les phares, la radio, la ventilation, tout ça, bah ça réduit, on passe de 300 à 200. Pour moi, c'est surtout pour la ville.
Encore une fois, je suis pas tellement d'accord avec toi, Martin, puisque il y a des voitures qui peuvent aller jusqu'à 600 km, même si, comme tu l'as dit, avec les équipements, ça réduit considérablement l'autonomie de la voiture. En même temps, si on veut faire un long trajet, on peut s'arrêter pour recharger, notamment avec des superchargeurs de Tesla. C'est très rapide, donc je crois que c'est à peu près une heure. On s'arrête juste pour une heure, et puis après on peut repartir si on veut faire un trajet long.
Oui, mais lors d'un voyage, une heure, c'est quand même globalement précieux, parce que quand on sait que, par exemple, pendant les vacances d'été, il faut partir relativement tôt pour éviter les bouchons. Puis en plus, là, on n'a pas assez de superchargeurs parce que là, actuellement, niveau superchargeur, si il y a beaucoup de voitures électriques, bah là, ça va créer des bouchons devant les superchargeurs. Donc, pour l'instant, je pense que c'est une innovation, les voitures électriques, ça c'est sûr. Mais je pense que pour l'instant, elle n'est pas assez développée. Donc certes, l'électrique, ça sera sûrement super quand ça sera développé. Mais là, à l'heure actuelle, je suis sceptique.
Oui, mais après, les superchargeurs, c'est relativement rapide et à installer. Quand il y aura... c'est juste parce que actuellement il n'y a pas encore assez de voitures électriques. Du coup, bah forcément, il y a moins de superchargeurs. Mais plus tard, afin de s'adapter à la demande... on aura beaucoup plus de chargeurs, de superchargeurs ou de chargeurs normaux pour les voitures électriques et ça sera beaucoup plus facile pour recharger sa voiture.
Oui, mais ça pose aussi la question de la bétonisation parce que les superchargeurs, où est-ce qu'on va les mettre? Parce que dans les stations essence, bah, il n'y a pas beaucoup de place. Certes, il va y avoir de nouveaux emplacements, mais il va falloir construire de nouveaux lieux, par exemple. C'est détruire certains espaces de la faune et de la flore.
Oui, effectivement, mais après, encore une fois, ces superchargeurs pourraient être remplacés par les stations essence actuelles et totalement remplacer en fait.
Ça, l'avenir nous le dira. Nous allons passer à, selon vous, l'électrique et plus précisément les énergies renouvelables ont-elles de l'avenir et a-t-on les infrastructures pour répondre aux besoins accrus en électricité que cela va demander? Pour moi, les énergies renouvelables, oui, certes, ça a de l'avenir, mais quand on sait que ça ne représente que 30% de notre consommation, ce qui occupe une majeure partie, c'est le nucléaire. Et le nucléaire, ça a des avantages, des inconvénients, les déchets, tout ça. Et pour l'instant, nous n'avons pas assez d'énergie renouvelable. Et c'est très compliqué à en installer parce que beaucoup de gens sont contre les éoliennes. Et pourquoi ?
Pareil, je suis toujours pas d'accord avec toi parce que effectivement, actuellement, à l'heure actuelle, on n'a pas assez de solutions d'énergie renouvelable. Mais bientôt, ça va être d'ici 30 ans, le nucléaire pourra être complètement remplacé par les énergies renouvelables. C'est totalement possible et c'est coûteux, certes, mais ça peut être réalisé.
Mais les éoliennes, ça prend beaucoup de place aussi. Du coup, on va avoir des paysages. Enfin, à la campagne, il va y avoir que des éoliennes.
On a beaucoup d'éoliennes qui sont installées à l'endroit où il y a de la mer. Donc, ce qui permet de ne pas voir les éoliennes et de les laisser dans la mer. Mais après, les éoliennes, elles détruisent pas forcément le fond marin non plus. Les éoliennes, ça peut être vraiment une solution.
Et a-t-on les infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins accrus en électricité que cela va demander? J'ai envie de prendre l'exemple de cet hiver. Cet hiver, on nous appelait à la sobriété énergétique. De quoi a-t-on besoin pour une voiture électrique? D'électricité. Cet hiver, on n'avait pas assez d'électricité, on allait en manquer en fait. Donc, demander aux gens d'avoir des voitures électriques, pour l'instant, c'est pas tenable parce qu'on n'a pas les capacités pour avoir autant d'électricité. Je sais pas ce que t'en penses, William, mais...
Moi, pour ma part, pendant l'hiver, on n'a pas eu de problème d'électricité. Après, on n'est pas les plus pauvres, on est assez aisés quand même. Mais ça reste à prendre en compte, évidemment. Sinon, en termes de bornes dans les villes, donc d'après notre expérience, il n'y a pas du tout assez de bornes, en fait, par rapport au nombre de demandes. Donc, évidemment, ça va évoluer. Évidemment, de toute façon, on n'a pas le choix, parce que l'électrique, c'est malgré tous les inconvénients qu'il y a, ça reste le futur, hein. On n'a pas le choix parce que tout ce qui va être énergie comme le charbon et tout ce qui va être pétrole, bientôt il n'y en aura plus, donc on va être obligé de trouver des solutions et l'électrique en fait évidemment partie. D'ici ces quelques années, j'espère que ça va évoluer.
Mais pour moi, l'électrique, ça ne doit pas être le seul remplaçant du pétrole. Parce que pour moi, enfin pour l'électrique, faut qu'il y ait aussi, faut qu'il y ait pas que l'électrique, faut qu'il y ait l'hydrogène, le GPL, donc c'est du gaz qui permet de. En fait, le GPL, pour moi, c'est ça qui a de l'avenir. Parce qu'en fait, ça pollue pas déjà d'une. De deux, ça permettrait de garder les infrastructures. Parce que les infrastructures qu'on a, les remplacer par tous ces superchargeurs, donc détruire toutes ces stations essence, ça va être super coûteux. Et ça, il faut le prendre en compte. Je voulais aborder juste une dernière partie très vite. La composition d'une batterie électrique est-elle éthique? Quand on voit d'où viennent les minerais qui la composent, le lithium, c'est l'Australie, le Brésil et le Zimbabwe. Le nickel, c'est la France et l'Algérie. Le cobalt, c'est la République démocratique du Congo. Et le manganèse, c'est l'Afrique du Sud, l'Australie et la Chine. Pour le cobalt, c'est des mafias qui ont la main mise dessus. En fait, c'est des enfants qui sont exploités. L'électrique, certes, c'est de l'avenir, mais il faut changer tous ces modes d'exploitation du minerai parce qu'on ne peut pas faire travailler des enfants. Et puis en plus, c'est des enfants qui sont quasiment pas payés.
Alors pour le coup, j'ai beau être complètement pour l'électrique, ce point ça me fait pas changer d'avis, mais je trouve ça inadmissible qu'on exploite des enfants aussi au Chili. L'extraction du lithium, ça utilise près de 65% de l'eau dans la région de Salar de Atamaca. On a également la destruction totale ou quasi totale du paysage, parce que bah, évidemment, il faut miner ces minerais. Et puis, globalement, on a beaucoup d'exploitation d'humains, et ça, c'est vraiment inadmissible.
Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Merci Raphaël, merci William, et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ce débat a pu vous en apprendre plus sur cette loi et sur l'électrique.
Débactu.
Débactu.
Débactu, le point de vue des lycéens concernés.